Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast disponible sur l'application de Radio France. Tous les vendredis, un coup de cœur, notre coup de cœur pour une bande dessinée récemment sortie.
C'est très facile de dire « Oh, il s'adresse à quelques personnes ». Ces quelques personnes n'y comprennent rien. J'ai vu hier soir. Alors quand on arrive à sauter l'obstacle de ces quelques personnes, on tombe parmi les purs et les simples, et qui eux, je ne dis pas qu'ils comprennent, mais ils sentent. Je ne demande pas davantage. Il n'y a rien à comprendre. On ne comprend pas un poulet rôti. On le mange.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Jean Cocteau, artiste multiple et complexe qui a marqué la première moitié du XXe siècle. Mais quel rapport, me diriez-vous, avec l'actualité de la bande dessinée ?
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
57 ans après la mort du poète, François Rivière et Laureline Matuisi reviennent sur la vie et l'œuvre de Jean Cocteau dans une bande dessinée justement. C'est une bonne surprise, cette biographie en bande dessinée ne ressemble à aucune biographie. Elle est libre, elle est distanciée et surtout elle est poétique, donc tout en hommage à la poésie et au cinéma de Jean Cocteau. Cocteau, l'enfant terrible, c'est le titre de cette bande dessinée éditée par Casterman. Le scénariste François Rivière et la scénariste et dessinatrice Laureline Matuisi sont mes invités ce matin. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler du parti pris graphique de cette bande dessinée, c'est un très très beau livre de 250 pages, tout en noir et blanc classieux. Avant donc de parler des séquences qui mêlent faits avérés et rêves supposés, onirisme et réalisme, et surtout avant d'évoquer le point crucial de cette bande dessinée, c'est-à-dire le procès de Cocteau qui est au centre du dispositif narratif de cette bande dessinée, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Jean Cocteau ? Pourquoi Jean Cocteau et pas Jacques Prévert ? Après tout, tous les deux ont essayé de transposer leur univers poétique au cinéma. Ils ont, et l'un et l'autre, marqué leur époque, la même époque, en imposant leur singularité. François Rivière, pourquoi Cocteau ?
Cocteau, lui, m'a tapé dans l'œil quand j'avais 12 ans, que je l'ai vu à la télévision, enfin très rapidement, un moment où il présentait dans une émission sur la philatélie le timbre à 20 centimes, la Marianne qu'il avait dessinée pour le timbre à 20 centimes, et ce personnage ébouriffé avec son blouson, enfin qui avait un côté un peu grand, extravagant, m'a amusé. Bon, et puis après, j'ai fait connaissance, si je puis dire, de lui plus tard, vers 14-15 ans, mais et puis le poète, enfin la poésie, les pièces de théâtre, les films, même si dans les années 60, on voyait pas trop. Cocteau venait de finir sa vie, il avait été assez célèbre vers la fin de son existence, mais au point peut-être même de gaver un peu les gens et les médias qui s'intéressaient à lui, sont passés à autre chose. Et tout doucement, il est revenu. Et moi, j'ai petit à petit investi son univers, parce que c'est tellement vaste, enfin, vu les pièces, certaines pièces, vu les films, évidemment, parce que...
C'est pour ça qu'a priori, cette biographie était une mission impossible. Comment résumer toute la vie de Jean Cocteau, mais aussi ses livres, sa poésie, son cinéma, son théâtre ?
Non, on ne résume pas la vie de Cocteau, enfin, c'est pas possible. Lui-même n'aurait pas réussi même à en retracer tout. Non, il préférait parler de lui comme un objet difficile à saisir. Après avoir repéré cette définition dans un catalogue de farces et attrapes, effectivement, on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, autant prendre des morceaux, faire des séquences, et c'est ce qu'on a fait avec Laureline. C'est vraiment un découpage.
On va parler de cette forme kaléidoscopique de cette biographie consacrée à Cocteau. Laureline Matuisi, vous qui avez passé, je suppose, beaucoup de temps avec Cocteau, ça vous a pris combien de temps d'ailleurs ?
Ça m'a pris 3 ans et demi. Pour moi, surtout, à tout en découvrir, puisque lorsque François m'a proposé le projet, en fait, de Cocteau, je ne connaissais que La Belle et la Bête. Cependant, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté le projet, pas le plaisir de faire un biopic sur une personnalité que je ne connaissais pas, mais c'est que La Belle et la Bête comptait beaucoup pour moi, et notamment dans le rapport de noir et blanc, dans le rapport de lumière, en fait, surtout... Enfin voilà, l'image poétique, quelque chose de très très beau. Et c'est surtout aussi La Belle et la Bête qui a quelque part donné donner au livre sa couleur aussi. Vous parliez du fait que c'est un récit en noir et blanc. Et en fait, au moment où François m'a proposé ce projet, lorsque les projets sont séduisants, en général, et qui viennent de l'extérieur, ce qui distingue les projets séduisants de ceux qui ne le seraient pas, c'est justement un rapport d'immédiateté à l'image, en fait. Et voilà, et lorsque François m'a proposé ce projet, ce qui est arrivé de façon très forte pour moi, c'était bien entendu les images de La Belle et la Bête, et par ce biais déjà une sorte de prescience du dessin que j'allais peut-être trouver en discussion avec cette œuvre-là. Et ensuite, avec tout le reste de son cinéma, puisque moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé parmi tout ce que j'ai pu découvrir, puisque donc ça a été une découverte totale, enfin quasiment totale, puisque c'est une figure tellement connue aussi qu'évidemment on en connaissait beaucoup sans rien en connaître, en fait.
François Rivière, quand vous entendez Laureline Battuici parler de son rapport à Cocteau, c'est-à-dire quelqu'un qu'on croit connaître, mais qui est déjà maintenant un peu éloigné, hein, il a marqué plutôt la première partie du siècle dernier.
Laureline dit exactement ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que le lien qui s'est fait, qui continue à se faire d'ailleurs entre d'autres générations que la mienne, avec Cocteau, c'est le cinéma. La Belle et la Bête, c'est le parfait exemple, puisque c'est un conte de fées. Or, la vie de Cocteau, c'est un conte de fées. Enfin, c'est vraiment, on peut la voir comme ça, une sorte de conte de fées avec des tas de moments un peu difficiles, comme dans les contes de fées, hein, où on risque de se faire manger par l'ogre. Lui, l'ogre, c'était l'opium, je pense.
Vous avez imaginé, pour cette bande dessinée, Cocteau, l'enfant terrible, édité chez Casterman, avec Laureline Battuici, vous avez imaginé un procès.
Je dis pas que ça s'imposait, mais d'une certaine manière, dans la mesure où il a été lui-même tout le temps en procès, il a fallu qu'il se défende, il était jugé en permanence par des tas de gens qui lui voulaient du mal, hein, souvent, les surréalistes, bon, c'est très méchant avec lui, les gens qui lui trouvaient un mode de vie totalement répréhensible, puis on pourrait faire la liste, la police qui venait chez lui... quand il a été dénoncé par un dealer jaloux de son dealer à lui. Enfin bref, on en finirait pas. Et donc il est en procès. Il est en procès permanent.
Mais le fait de faire le procès de Cocteau comme fil rouge de cette bande dessinée pour rappeler les grands moments de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle, c'est aussi une question que vous vous posez. Comment être vis-à-vis d'un type comme Jean Cocteau avec ses parts d'ombre et sa part de génie?
En fait, dans la construction du scénario, il se trouve que donc François, qui le connaissait lui parfaitement, est arrivé avec une base, enfin avec quelque chose de chronologique et de très nourri. Moi, de mon côté, en fait, qui le connaissais moins, moi de mon côté, j'ai proposé à François qu'on fasse cette espèce de mise en abîme dans le Testament d'Orphée, parce que d'une part, ça nous permettait de parler de poésie sans parler factuellement de poésie, c'est-à-dire ça nous ouvrait une sorte voilà d'immersion comme ça dans son œuvre, dans cette imagerie que moi je trouve extraordinaire, et dans le Testament d'Orphée en plus, enfin voilà, il y va pas de main morte, il y en a plein partout, c'est une sorte de carnaval que moi j'adore, mais donc ça permettait à la fois de parler de poésie, ça permettait à la fois, moi je reviens à cette histoire de cinéma, de parler de cinéma parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais aussi ça permettait en ce qui me concernait, de pouvoir retracer aussi, en quelque sorte, les raisons. Ce procès était une sorte d'enquête personnelle aussi me concernant. Voilà, où je pouvais aussi chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il était aussi, il semblait aussi suspect aux yeux des gens. En fait, voilà.
Pour de bonnes raisons, non, François Rivière, il a quand même traversé les deux grandes guerres en mondain, quoi.
Oui, il a fait ce qu'il a pu.
C'est-à-dire pas grand-chose en ce qui concerne...
Ah ben, il a quand même participé à la Première Guerre mondiale, même s'il le faisait en pyjama rose, il était ambulancier quand même, avec ses amis mondains. C'est-à-dire que finalement, il y a tout le temps le côté... il y a toujours les deux côtés, quoi. Il y a le côté où on peut l'attaquer, le trouver trop frivole, et puis celui où il essaie, en bon petit garçon qui s'implique quand même, qui essaie d'aller au secours de la patrie. La Seconde Guerre mondiale, c'était un peu différent. Là, il a été justement l'objet de beaucoup de critiques.
Et de procès, parce que vous parlez du procès de son dernier film, Le Testament d'Orphée, qui devient donc dans votre bande dessinée très centrale, puisque c'est la trame narrative de la bande dessinée repose sur ce procès, mais lui-même, à la Libération, il a été inquiété et il a eu des défenseurs.
Il a rien fait de mal, il a pas été collaborateur. Hein. Il a fait une énorme bêtise, bon, dont on parle dans le livre. Il y a même une scène justement où on voit face à Jean Marais qui lui dit mais comment est-ce que tu as pu prendre écrire un texte, un salut à Arnaud Brecker qui était le le sculpteur
fétiche d'Hitler.
Prétendument fétiche, en tout cas, oui, revendiqué par les nazis. Et Cocteau lui dit, mais oui, peut-être, j'ai peut-être une connerie, mais c'est un ami, je suis fidèle en amitié depuis toujours, et donc, voilà... Il avait toujours des bonnes raisons, de toute façon, de s'en sortir. Un peu plus tard, il a défendu Jean Genet, qui était pourtant pas un grand escroc, mais qui était un voleur de livres. Donc ça l'a mené au tribunal. L'idée du procès est permanente, parce qu'en plus, un procès, c'est un spectacle. Et Cocteau, c'était un homme de spectacle. Donc ça lui allait finalement assez bien d'avoir à se défendre toujours. C'est-à-dire qu'il avait un rôle.
Comment vous avez choisi les séquences de sa vie et de son œuvre pour votre bande dessinée Cocteau, l'enfant terrible?
Il y a des séquences qui se libèrent d'elles-mêmes, si je puis dire, du magma de sa vie. Il y a des grands moments, je sais pas, sa découverte de ballet russe, sa découverte de Picasso, enfin sa découverte, le début de son amitié un peu bizarre avec Picasso, qui a suivi un peu comme ça. Il a un peu vécu aussi dans l'ombre de la gloire de Picasso. C'est un Picassiette, si j'ose dire, et il avait un côté comme ça du type qui veut tout le temps être un peu à la mode. Il a vraiment tout fait aussi pour qu'on parle de lui. Tout le temps, mais donc se dégagent des séquences qui deviennent incontournables dans la mesure où on est obligé de passer sous silence des moments où il rame un peu, parce qu'il y a des moments on ne s'est pas appesanti sur les périodes de désintoxication, parce que c'est quand même pas le plus passionnant. Or, l'opium, oui, joue un rôle, et dans la bande dessinée, oui, son addiction à l'opium crée une espèce d'ambiance, d'atmosphère très particulière, qui pour moi est reliée à la poésie. Enfin, c'est-à-dire que le poète, c'est l'opiumane, hein, quand même, un peu. C'est-à-dire que les visions de Cocteau, notamment dans ses dessins, les dessins qu'on trouve dans le fameux livre intitulé Opium, qui est un de ses plus beaux livres, avec la difficulté d'être, qui est pour le coup un livre très profond et pas du tout frivole. Mais dans Opium, il y a des choses magnifiques. Enfin, et là, on est hors sol, comme on dit aujourd'hui. C'est un poète
qui va essayer d'adapter sa poésie au théâtre, au cinéma, à la peinture, au dessin, mais qui est fondamentalement poète.
Oui, il est fondamentalement poète, mais justement parce que quand il fait du théâtre, c'est quand même du théâtre. Le roman, c'est du roman. Et le cinéma, c'est du cinéma. C'est-à-dire que pour le cinéma, il bricole des choses, il invente des effets spéciaux, etc. Tout en restant effectivement poète. Son œuvre poétique, qu'on peut trouver dans la Pléiade sous forme d'un énorme volume. Et là, comme quand on feuillette, et surtout quand on le lit, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a écrit énormément. Et la poésie, c'est quelque chose de permanent chez lui, et c'est sûrement ce qu'il a fait de plus fort, quoi.
J'ai cru d'abord que la poésie était un plaisir, que les muses étaient des femmes charmantes, et puis je me suis aperçu que c'était des personnes qui sont comme la menthe religieuse, qui dévorent la personne qu'elles épousent. Et je me suis aperçu que la poésie était un drame. Et à l'âge de 20 ans, j'ai complètement tourné Kazakh, ce que Mauriac appelle partir sans tourner la tête. En effet, j'ai quitté une bande d'amis sans tourner la tête. J'avais beaucoup d'amitié pour eux, et si j'avais tourné la tête, je ne serais pas parti. J'aurais été changé en statue de sucre. Et je suis parti dans une bande très vivante, qui était celle de Picasso, de Modigliani, enfin,
vous connaissez
surtout de Montparnasse, la bande, oui. De ce qu'on a appelé l'âge héroïque.
Oui.
Je me suis jeté dans cette bande, et comme j'étais en somme un homme qui venait de droite et qui arrivait à gauche, j'avais des inimitiés des gens de gauche qui me reprochaient d'aller à droite, et des inimitiés des gens de droite qui me reprochaient d'aller à gauche. J'étais dans la situation de Tirésias dans Proélus et Cressida, qui passe pour un traître auprès des Troyens et auprès des Grecs.
Voilà, c'était Jean Cocteau en 1959, François Rivière.
Ah, c'est magnifique, il est sérieux, et il a même plus cette voix de canard qu'il avait.
Non, il est très énervé, c'était en 1959, il venait de voir les 400 coups de François Truffaut qui voulait défendre, et il se rendait compte que très peu de cinéastes défendaient ce film, donc dans une interview, il se lâche, où il raconte un peu sa vie, un peu ce qu'il pense. C'était en 59, il prépare son dernier film, Le Testament d'Orphée.
Et qu'il a pu faire grâce à Truffaut, notamment.
Truffaut, Yul Brynner, tout le monde voulait figurer dans le dernier film de Jean Cocteau. Quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, c'est vrai que cette terminologie avait tout son sens au XXe siècle. Vous faites la moue, François Rivière, comme s'il transcendait ce clivage droite-gauche.
Ben là, il s'en sort très bien, mais c'est comme un enfant de la grande bourgeoisie parisienne. Effectivement, on n'a jamais imaginé qu'il ait pu épouser des thèses marxistes. C'était pas du tout son truc. Et en même temps, il était un homme de droite tolérant, si je puis dire, qui acceptait les idées de gauche à l'époque où elles n'étaient pas encore extrêmement virulentes. Mais là, il est effectivement, dans ce remède d'entendre, il est extrêmement direct et franc. Il dit vraiment ce qu'il pense.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
N'ayez pas peur.
Je n'aurai pas peur.
Belle. Acceptez-vous que je vous voie souper?
Vous êtes le maître.
Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid.
Je ne sais pas mentir, la bête.
Tout est-il ici à votre convenance?
Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur.
Voilà un film qu'on peut revoir en version restaurée, La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Laureline Mathuissi, vous nous avez dit que c'est ce film de Cocteau qui vous a marqué et qui vous a inspiré ce traitement graphique de cette biographie consacrée à Cocteau, L'Enfant Terrible, édité chez Casterman. Ce noir et blanc, donc.
Ce qui parcourait déjà mon travail, de toute façon, notamment dans une de mes bandes dessinées précédentes, c'était un travail sur la lumière. Et voilà, et donc du coup, dans La Belle et la Bête, on est vraiment là-dedans. Enfin, moi, ce qui m'en reste, en fait, comme trace, je l'ai revu au cinéma il y a très peu de temps, il était ressorti au cinéma. Il y a 3 ans, je crois. Mais voilà, c'est l'idée d'un rapport d'ombre et de lumière, en fait.
Et de fait du noir et blanc.
Ouais. Et de fait aussi, je pensais à ça parce qu'on parlait de l'opium tout à l'heure. Alors j'espère que je ne vais pas trop m'en mêler les crayons, mais ce qui prend corps aussi beaucoup dans le bouquin et ce qui dialogue justement avec son cinéma, etc., c'est quand même l'idée aussi d'un personnage qui passe sa vie à traverser ce qu'il appelait la traversée des miroirs, en fait, à aller chercher de l'autre côté, à être dans une sorte de dialogue avec la poésie, mais aussi avec les morts, avec un monde qui serait un monde, une sorte d'autre côté, en fait. Et en fait, court cette idée que dans cette recherche permanente, en fait, de se confronter à une réalité qui serait une sorte de réalité parallèle, etc., eh bien, sa propre réalité devient vacillante et qu'en fait, lui-même finit par vivre dans une réalité qui n'en est plus tout à fait une et qui aussi peut-être la réalité de ses fictions, enfin voilà, quelque chose où peu à peu dans notre livre, en fait, voilà, s'incarne cette idée, en fait, que Cocteau a peut-être déjà traversé le miroir, en fait.
Ce qui est remarquable dans cette bande dessinée, c'est qu'il y a quand même des chapitres de longues séquences sans parole, comme si il fallait, pour rendre hommage à Jean Cocteau, au poète, mais aussi au réalisateur, revenir sur la force des images et pas des mots.
Oui, et puis surtout, c'était, je trouve que pour ce qui est de la bande dessinée, c'est quand même une façon de parler de poésie sans devoir rien en dire. Enfin, pour moi, ça allait de soi, en fait, que l'hommage qu'on pouvait faire à la poésie devait être de l'ordre de l'impalpable, en fait. Alors, bien entendu, par contre, on y introduit aussi ces mots, puisque justement, le livre finit par quelque chose qui vient de la difficulté d'être, justement. Mais un extrait de la difficulté d'être. Mais voilà, l'idée était vraiment, évidemment, qu'à un moment donné, c'est impalpable aussi. Enfin, l'idée de l'invisible, en fait, voilà, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment donné, lui-même traverse des portes et il ne sait plus exactement... Enfin, nous, en tout cas, en tant que lecteurs, on ne sait plus exactement dans quelle strate de réalité il évolue. C'était cette façon... tout s'articule ensemble. C'est une façon de parler de la poésie et du coup tout ça doit être muet. Je crois que je me suis un peu emmêlé les crayons dans ma phrase.
Non.
Mais voilà, il y a cette idée qu'en fait l'invisible doit s'incarner dans l'image en fait et que voilà et du coup un fil poétique et invisible qui doit n'être pas vu pour pouvoir être vraiment.
Mais concrètement, c'est-à-dire quand vous avez reçu les textes, les dialogues de François Rivière, vous êtes dit vous, Laureline Matuissi, tout ça peut être exprimé juste en image, avec des mouvements, avec des scènes.
Bah après, on a quand même un travail de co-création, quand même scénaristique. Donc moi, j'ai vraiment j'ai fait des parties prises, j'ai travaillé aussi sur de la séquence. J'ai amené aussi des respirations qui étaient celles de l'image, en fait. Donc
François Rivière, pour terminer.
Bah pour moi, Cocteau, c'est un peu un mort vivant. Donc il s'agissait de, c'est un peu Nosferatu, hein, d'où le noir et blanc, qui lui va très très bien, le côté. Expressionniste, son cinéma est quand même marqué par l'expressionnisme allemand, ça c'est évident. Et du coup, le personnage, effectivement, de poète, de funambule, totalement lié à cette espèce cette manière de l'exprimer graphiquement dans ce noir et blanc, ce clair obscur. Enfin, c'est ce passage de l'ombre à la lumière en permanent. Enfin, bon, pour moi, il y a une cohérence totale dans tout ça. Hein.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Avec ce matin, François Rivière et Laureline Matuissi pour Cocteau, l'enfant terrible, la bande dessinée éditée chez Casterman. Merci beaucoup d'être venu, particulièrement à vous, Laureline Matuissi, puisque vous venez de Bordeaux, spécialement pour l'émission. Merci à vous. Merci François Rivière.
Merci, au revoir.